Voilà, c'est mon privilège d'ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin, dans le livre des Actes, pour découvrir avec vous quelques moyens que Dieu donne à l'Église pour rester forte et vaillante dans l'épreuve. J'ai intitulé le titre de la prédication est intitulé de la façon suivante, « Les 10 caractéristiques » d'une église forte dans l'épreuve. Alors, je n'ai pas le temps d'énumérer les 10, ne vous faites pas de soucis, j'ai 10 minutes, quart d'heure avec vous ce matin. J'en aborderai 3, les 3 premières. Pour les suivantes, il faudra réinviter portes ouvertes plus tard. Évidemment que les temps de culte sont un peu raccourcis vu les live streams, et c'est bien naturel et bien normal. 10 caractéristiques donc. Autour d'un texte qui vous étonnera peut-être, parce que ce n'est pas un texte situé au cœur de la persécution. La persécution viendra à cause de l'événement vécu par les disciples de Jésus et les premiers apôtres. Mais enfin, fort de cette expérience et du vécu de la première communauté chrétienne, ils tiendront bon. Alors, quelle est la recette, si j'ose dire ? Il n'y en a pas face à l'épreuve, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de calcul non plus, il n'y a pas de méthode. Il y a une relation, il y a le Saint-Esprit, il y a la personne de Jésus, il y a l'amour du Père, mais il n'y a pas de recette. Pourtant, nous lisons dans Actes 2, les versets 42 à 47, le vécu, le fruit de cet événement particulier que les disciples ont vécu, à savoir la réception du Saint-Esprit qui engendre l'Église. La communauté chrétienne est engendrée dans un tumulte, dans un vent d'expectative qui crée la vie, et il en ressort plusieurs réalités. Je lis avec vous Actes 2, versets 42 à 47. Je n'ai pas le PowerPoint sur la chair, donc je suis un peu aveugle. Merci à la technique, si possible, de m'aider. Mais j'ai la Bible et tout va bien. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ce qu'il sauvait. Alors, suite à ce texte qui est le fruit de ce spectacle, cette inondation d'une vie nouvelle, le Saint-Esprit qui survient sur la communauté, qui crée en eux non seulement l'espoir d'une vie nouvelle, mais la vie nouvelle par excellence. Il y a un début tellement fort, qui va les conduire, à cause du témoignage du nom de Jésus, à cause de la proclamation de l'Évangile, à connaître eux aussi un vent de face qui se fera violent parfois. Les coups vont suivre, les emprisonnements, les lynchages, non pas médiatiques comme aujourd'hui, on n'est pas dans la cancel culture américaine, mais enfin, on va quand même essayer d'effacer leurs traces et leurs noms, parce qu'ils gênent. La persécution viendra. Pour autant, ils tiendront bon à cause de plusieurs des caractéristiques de cette vie nouvelle dans la première église. Je me retourne pour lire mon PowerPoint. Je comptais sur lui pour vous instruire. Une église qui fait l'expérience quotidienne de la puissance du Saint-Esprit. Une expérience. Vous vous souvenez peut-être que Paul a renié son Seigneur. Et cet homme qui, à cause des coups qu'il pensait recevoir lui-même en voyant ce qui attendait Jésus devant la croix, cet homme qui avait pris peur, avec tous les autres d'ailleurs, il n'était pas le seul, tous l'avaient délaissé, cet homme rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte prend les devants. il est avec tous les autres un des témoins oculaires qui ose dire à la foule rassemblée que le Christ est vraiment ressuscité. Il a de l'audace parce qu'il a fait l'expérience d'une vie nouvelle, celle du Christ qui survient sur lui. Le Christ est, oui, exalté dans les cieux, mais sa vie, celle qu'il avait entendue, vue, touchée de ses propres yeux, ses propres mains, vue de ses propres yeux, cette vie, elle est aujourd'hui dans son âme, dans son corps, jusque dans ses tripes. Il ressent, il sait que le Christ est vivant, il l'a connu et il sait que cette vie est véhiculée par la proclamation d'un message tonitruant qu'il dit haut et fort, le Christ est vraiment ressuscité, changé, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, il articule la foi de manière très simple et explicite parce qu'il a connu la réalité d'une vie nouvelle et il en fait l'expérience, lui et les siens, la première Église, avec lui. Alors, les membres de l'Église marchent avec le Seigneur. Les 3000 qui ont été gagnés au Christ, baptisés, remplis du Saint-Esprit, sont nés de nouveau. Ils sont forts dans la foi parce qu'ils font l'expérience d'une communion personnelle, vivante, vivifiante avec le Seigneur. On peut se laisser interpeller. On peut laisser ce texte faire miroir à notre foi. Comment est-ce que je vis la foi aujourd'hui et comment est-ce que je survivrai à cette foi si j'étais, comme Yihou, cruellement persécuté? Rassurons-nous, ce n'est pas le cas ici en Suisse, évidemment. Mais osons le pari, osons le calcul, osons la réflexion, osons aller jusqu'à se poser cette question. Et sans même la question de l'extrême, de la persécution violente et forte, où en suis-je aujourd'hui? Alors que tout roule, alors que ma vie se déroule comme d'ordinaire, dans une vie plutôt facile, et personne ne recherche la persécution, l'épreuve ou la souffrance, nous en sommes évidemment convaincus. Mais si jamais, et aujourd'hui, alors que tout roule, où en suis-je avec Jésus? Suis-je vivifié dans ma relation avec lui? Est-ce que je peux dire que mon témoignage de l'expérience de Jésus est quelque chose de quotidien? Est-ce que je remarque, est-ce que je dénote dans ma vie le mieux, la plus-value de Jésus au jour le jour? Est-ce que j'ai un témoignage quotidien de la vie de Jésus avec moi? Alors, si chaque jour je fais l'expérience de Jésus, les groupes de maison, les réunions de prière, les cultes du dimanche matin, il n'y a plus d'ennui. On ne cherche pas le sujet de prière. On ne cherche pas la dernière prédication en date qui va faire écho particulièrement fortement dans nos cœurs. Si nous vivons avec Jésus au jour le jour, nos groupes de prière seront vivifiés parce que notre prière sera articulée de manière puissante. Notre vécu témoignera parce que nous aurons quelque chose à annoncer, non seulement à nos frères et sœurs, mais au monde qui nous entoure. Bien sûr, tout cela dans ce climat d'amour propre au Saint-Esprit lorsqu'il est répandu sur la communauté. Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je crois que j'en ai dit 9, sinon vous me corrigerez. Galates 5, 22. Nous pouvons prier aussi ces textes, prier le fruit de l'Esprit dans nos vies, marcher avec le Seigneur, rempli de sa vie, pour en faire l'expérience tous les jours. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de chemin de traverse. Le seul chemin pour faire l'expérience de Jésus, c'est la prière. C'est nous arrêter, plier le genou dans la chambre cachée, loin du reste de la famille, de la tribu, du monde professionnel, du monde qui nous entoure, d'Internet, de la télévision, de la radio, des bonnes et des moins bonnes nouvelles. Arrêtez-vous, arrêtons-nous pour contempler Dieu et nous laisser revêtir à nouveau de sa louange, de ses prières. Être vivifié par lui. Deuxième caractéristique d'une église qui tient bon, une église qui reste forte dans l'épreuve, c'est une église qui fait l'expérience de la communion au corps de Christ. Nous avons besoin de relations et si le Covid nous a convaincus d'une chose, c'est qu'isolés, on perd goût un peu à la vie. J'étais avec mon voisin hier, le jardin était tellement ensoleillé, taillé les arbres, on avait presque envie de retourner la terre déjà, c'est un peu tôt, pour jardiner, mais enfin, lui travaillait à son cabanon, moi j'étais dans mon jardin, on a bu une bière ensemble, assis sur le muret, là, devant le spectacle de la nature qui s'éveille. Il se remettait du Covid. Il a passé 10 jours tout seul dans sa chambre. Il sortait pour la première fois. Il n'en pouvait plus. Il y avait besoin de lumière. Il a dit, j'ai pas tenu 2 jours seul dans ma chambre. J'ai dit à ma femme, si tu me laisses 10 jours dans ma chambre, je vais crever. Alors il a vécu dans la maison comme ça, sans faire une quarantaine stricte. Il a infecté personne, je vous rassure, tout le monde va bien. Mais enfin, on a pris conscience que l'isolement est quelque chose d'extrêmement pénible. Nous avons besoin de relations et nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de faire l'expérience de la communion les uns aux autres en église. Alors avec les masques à distance, c'est peut-être pas idéal, mais il y a encore des petits groupes, même à 5, c'est sympa. Inviter un couple pour partager un repas le soir et peut-être prier ensemble. Pourquoi pas partager la Sainte Cène, avoir un temps spirituel, même à 4 ou à 5, c'est bien. Jésus a dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là 2 ou 3. Hein. Même en petit groupe, on peut faire l'expérience de la relation qui bénit à travers le repas. Pourquoi pas partager la scène, je l'ai dit, et prier. C'est ce que vit la première église. Ils prenaient le repas avec simplicité de cœur et dans la joie, dans les maisons. Ils partageaient avec ce repas la scène et ils priaient. Non seulement la communion fraternelle, ça c'est Portes Ouvertes qui nous l'apprend, évidemment, ou l'histoire de la persécution, non seulement la communion dans les moments sympas, mais une loyauté les uns vis-à-vis des autres jusqu'au bout du chemin. Et pour certains chrétiens, le bout du chemin, c'est, ma foi, passer par une étape que nous redoutons et qui pourtant arrive tôt ou tard, celle de la mort. Et dans ces moments-là, dans nos EMS ou nos EHPAD en France, le désarroi des gens, des familles et de celles et ceux qui devaient, ma foi, quitter cette vie, c'était de partir seul. Jusqu'au bout, nous avons besoin d'être entourés par des frères et des sœurs dans la foi. Troisièmement, une église qui connaît la Bible et qui est capable de l'employer. Yehoud, dans son camp, se remémorait des versets qu'elle avait mémorisés avec d'autres, j'imagine, parce que quand on n'a plus de Bible, et là aussi, rassurons-nous, ça n'est pas notre cas. Mais enfin, ayons pour habitude, et vous avez ici un pasteur qui l'a fait une vie entière, Guy, qui a appris tellement de versets, de textes bibliques, de chapitres par cœur. C'est l'homme que je connais qui a fait ça le plus et qui probablement on connaît davantage que la moyenne. Pourquoi pas ? Écouter assidûment, c'est bien. Persévérer, c'est mieux. Comment est-ce que tu pries? Comment est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu te laisses encore entraîner par la lecture du texte? Est-ce que tu te laisses enthousiasmer par cette lecture? La lire à quelques-uns, c'est génial. Vous m'écoutez, vous êtes braves dans vos maisons, lisez-la en couple, lisez-la en petit groupe, laissez ce texte parler, discutez-en ensemble, elle va devenir vivante. Et vous n'aurez aucun ennui, au contraire, vous vous réjouirez de la fois prochaine pour vous retrouver en petit groupe et vite ouvrir la Bible, parler du texte. Comment parle-t-il à mon cœur? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il a à nous dire ensemble? Et on prie, on persévère dans l'enseignement de la parole. Je le disais, la connaître, alors elle ne vous sera peut-être pas ôtée, vous l'aurez toujours avec vous, mais on en a tellement qu'on ne la connaît plus. On en a 2, 3, 4 ou 5 par famille. On ne la lit plus, ou de moins en moins. Et on ne la connaît pas, ou on la connaît si mal. Et pourtant, c'est grâce à elle que notre foi est articulée de manière propre, correcte, entendue. Nous avons besoin d'être affermis de notre connaissance de l'Écriture. Je termine par un quatrième point, j'ose, parce que je suis un peu titillé par ce point-là. Vous voulez connaître un peu la persécution? Non, pas trop, on n'a pas envie, mais vous voulez que votre foi se muscle? Vous désirez revêtir ces caractéristiques d'une église forte? Prenez l'évangélisation sur le long terme, hein, pas juste le coup de poker, hein, le one shot, l'event, comme on aime faire aujourd'hui, l'événement. On fait un grand coup, maintenant, c'est la saison, puis après on oublie tout. Prenez l'évangélisation au sérieux sur le long terme. Vous constaterez que même dans nos sociétés dites libres et ouvertes, être le fer de lance de la mission de l'évangélisation ici nous déséquilibre un peu, nous fait parfois un peu douter. parfois on est un peu dérouté, parfois on se dit « Ouh là, je vais déranger, ouh là, ça me fait un peu peur, ouh là, comment est-ce que je vais dire les choses ?» On est vite un peu comme ça, désarticulé. Et c'est là qu'on se rend compte que dans le réel d'une vie de foi qui est professante, qui ose l'aventure, qui ose le chemin d'être dite, articulée au monde qui nous entoure par des projets comme les flambeaux, j'étais content de voir un chef flambeau au fond, eh bien rien que ça, en tant qu'église, je vous bénis de soutenir les flambeaux. Il y a peut-être d'autres projets missionnaires dans la région, et je sais que Guy participe au camp d'été dans la région aussi, je ne sais plus avec quel organisme, mais soutenez la mission sur le long terme, de prière, de cœur et dans l'action. Vous verrez, ça fera un peu trembler parfois vos certitudes. Peut-être que vous serez mis au défi de prier davantage, de chercher Dieu un peu plus, de lire sa parole vraiment, et d'être ensemble, non pas soumis au vent de l'opposition, mais d'être ensemble fortifié face à ce vent peut-être parfois plus menaçant. Soyez bénis au nom de Jésus.